Voici les deux textes liturgiques pour ce cinquième dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de l'épître de Saint Pierre, première épître de Saint Pierre. Mes bien-aimés, ne faites qu'un dans la prière, soyez compatissants, aimez-vous en frères, soyez miséricordieux, humbles et doux. Ne rendez point le mal pour le mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent, car c'est à cela que vous avez été appelés, pour devenir les héritiers de la bénédiction. Car si quelqu'un aime la vie et désire voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et que ses lèvres ne profèrent point le mensonge, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et s'attache à l'acquérir, car le regard du Seigneur repose sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, tandis qu'il présente un visage de colère à ceux qui font le mal. Et qui pourra vous nuire si vous vous appliquez à faire le bien? Et si même vous deviez souffrir pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne les craignez pas, ne soyez pas troublés, mais rendez gloire dans vos cœurs à la sainteté du Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne va pas au-delà de celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et celui qui tuera méritera d'être condamné en jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être condamné en jugement. Et celui qui dira à son frère « Raca » méritera d'être condamné par le conseil. Et celui qui lui dira « Fou » méritera d'être condamné au feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère et après cela, tu reviendras présenter ton offrande. Veuillez vous asseoir. Continuez vos efforts pour le chant, surtout pour l'asperger, s'il y a encore des progrès à faire. En principe, il y a 18 kyrielle différents. En principe, on a un kyrielle, c'est-à-dire un ton de chant pour le kyrielle, gloria, etc., pour chaque temps liturgique. Donc maintenant, vous commencez à peu près à connaître celui de le kyrielle des anges. Je voudrais qu'on commence bientôt le kyrielle numéro 11, hein, pour qu'on apprenne deux ou trois kyrielle petit à petit. Il faut faire des progrès aussi dans le chant, c'est important. Donc dimanche prochain, nous aurons le repas mensuel, donc ici après la messe. Ensuite, pour le mois d'août, on prendra comme le jour de repas le 15 août, parce que c'est en même temps la fête nationale pour les catholiques en France. Pour cette semaine, messe tous les jours, je suis là toute la semaine, donc messe tous les jours à 10h. Samedi sera une messe de mariage, deux anciens paroissiens qui viennent se marier ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans Saint Matthieu aujourd'hui, il y a cette phrase qu'il faut bien comprendre. Si votre justice n'excède pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, c'est dur. Alors, je voudrais vous parler un peu de cette vertu de justice. C'est une vertu peu connue, c'est partie des vertus cardinales. C'est-à-dire qu'il y a quatre vertus cardinales. La prudence, la justice, la force, la tempérance. La justice nous est donnée par Dieu pour rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu et rendre aux hommes ce qui est dû aux hommes. Le problème, c'est le péché originel. Le péché originel a mis la pagaille dans le bel ordre que notre Seigneur Jésus-Christ avait voulu dans les âmes. Et à cause de ce désordre, justement, chacune des puissances de nos âmes est atteinte par le péché originel. Quelque chose qu'il faut bien comprendre. Saint Thomas en parle énormément dans sa somme, et Mgr Lefebvre nous en parlait très très souvent, surtout pendant les retraites qu'il prêchait. Chacune des puissances de notre âme est atteinte. Et la justice va être utilisée pour rattraper les péchés contre la malice de la volonté. C'est pour ça qu'il y a la justice. Pour rattraper Les péchés dans l'usage de l'intelligence, il faut la prudence. La prudence va nous aider à rattraper les péchés d'ignorance qui tournent autour de l'ignorance. Pour lutter contre l'ignorance, il faudra donc utiliser la prudence et l'étude. On ignore, donc il faut étudier les choses que nous ignorons. Et il faut utiliser, surtout utiliser notre intelligence pour travailler les choses qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire tout ce qui regarde le salut de notre âme. Après, il y a l'irascible. L'irascible, c'est un pouvoir qu'on a de lutter, un pouvoir de lutte. La vie est un combat, on appelle le combat spirituel. Donc le bon Dieu a mis dans notre âme un système pour lutter contre les tentations, lutter contre les obstacles. Et vous voulez commencer à suivre le bon Dieu, le démon s'en mêle évidemment, il ne va pas apprécier du tout que des catholiques cherchent à vivre en état de grâce. Donc vous pouvez être certain que dès que des catholiques cherchent à vivre en état de grâce, le démon s'en mêle. Donc Dieu nous a mis un système de protection, de combat qu'on appelle l'irascible. Ira en latin, c'est la colère. Et l'irascible va être attaqué par la faiblesse. Et donc il va falloir la vertu de force pour lutter contre cet irascible. Il va falloir aussi la vertu de pénitence. On fait pénitence justement pour lutter contre les conséquences du péché originel. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas par quatre chemins dans les conseils de pénitence. Si vous ne faites pas pénitence, nous dit-il, vous périrez tous. Donc la pénitence est quelque chose d'obligatoire. Et puis il y a encore en nous une partie, si vous voulez, de notre système que le bon Dieu nous a mis dans notre âme pour arriver à vivre un état de grâce, c'est aussi ce qu'on appelle le concupiscible. Le concupiscible, c'est ce qui nous fait désirer les choses. Heureusement qu'on a un désir de manger. Imaginez quelqu'un qui n'a plus aucun désir de manger, il va mourir. Bon. Donc il y a un désir de manger. Le problème, c'est que le péché originel, là aussi, a mis la pagaille. Et on va désirer des choses de façon désordonnée. Donc il faut la vertu de tempérance. Bon. Alors revenons à la vertu de justice, parce que c'est de celle-là dont Saint Matthieu nous parle aujourd'hui. La vertu de justice, elle va travailler avec la volonté. Donc l'intelligence a pour objet le vrai, la volonté a pour objet le bien. L'irascible a pour objet le bien ardu, difficile à obtenir, et le concupiscible a pour objet le bien désirable. Donc, le bon Dieu nous donne la vertu de justice pour précisément nous aider à diriger notre volonté vers le bien, pour que nous puissions atteindre la vérité. C'est très beau de connaître la vérité. La vérité, elle est là-bas. Très bien, mais il faut l'avoir, la vérité. Il ne s'agit pas de se dire, ben oui, la vérité est là-bas, c'est très bien. Moi, je suis là, je reste là, et la vérité, elle reste là où elle est. Non, il faut l'atteindre, cette vérité. Alors, pourquoi la vertu de justice va intervenir là-dedans? Parce que la vertu de justice, je vous l'ai dit, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Lorsqu'on pêche, il faut bien comprendre ça. À chaque fois que je commets un péché, je vole quelque chose qui appartient à Dieu. On ne réalise pas ces choses-là. Je vole quelque chose qui appartient à Dieu parce qu'à chaque fois que je commets un péché, je dis au bon Dieu, vous me demandez telle chose, mais moi j'ai une idée différente sur la question, et donc je refuse de me soumettre à votre volonté, je vais faire ma volonté, je suis ma volonté propre, et pas la volonté de notre Seigneur. Donc à chaque fois que je commets un péché, surtout un péché mortel, je vole quelque chose qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est volée à Dieu? Cette chose qui est volée à Dieu, ce qu'on appelle la gloire accidentelle de Dieu. Une gloire substantielle de Dieu, qu'on ne peut pas toucher, évidemment. Dieu étant infini, on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu. C'est impossible. Mais en péchant, on détruit une partie de ce qu'on appelle la gloire accidentelle de Dieu. Ce n'est pas la gloire substantielle qui, elle, ne peut pas diminuer, puisqu'elle est infinie. La gloire accidentelle de Dieu, c'est-à-dire autant que faire se peut, je détruis volontairement, en suivant ma volonté propre, au lieu de suivre la volonté du bon Dieu, je vais prendre littéralement quelque chose qui appartient au bon Dieu. Et donc, il faut réparer. Et donc, je vais utiliser les quatre vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance pour rétablir la justice, rétablir ce que je dois d'une certaine façon à Dieu. Voilà pourquoi il faut faire pénitence. Alors les pères de l'Église se sont posé la question de savoir, mais comment peut-on justement rétablir cette gloire accidentelle que je viens de détruire, au moins en partie chez le bon Dieu? Eh bien, les pères de l'Église ont toujours répondu de trois façons, avec trois exemples. Ils disent la meilleure façon de rétablir cette justice, disent-ils, c'est l'aumône, le jeûne et la prière. C'est dans le catéchisme. L'aumône, le jeûne et la prière sont trois vertus peu connues que nous devons utiliser pour rétablir la vertu de justice que j'ai détruite par le péché. Dieu, si vous voulez, veut un ordre dans notre âme. Alors avant le péché originel, il n'y avait pas de problème, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le don d'intégrité qui gardait cet ordre. Mais avec le péché originel, le don d'intégrité a disparu. Et donc il y a un désordre qui s'est installé. C'est ça qu'on appelle de façon générale la révolution. Révolution, ça veut dire quoi en latin? Revolvere, c'est tourner dans l'autre sens. Donc Dieu a prévu que la machine marche d'une certaine façon. Et on dit au bon Dieu, écoutez, votre mode d'emploi ne me plaît pas, moi j'ai une autre idée sur la question et je vais faire tourner la machine à l'envers. Et donc, l'introduction des quatre vertus théologales, cardinales, de prudence, justice, force et tempérance, va nous aider à remettre, réutiliser la machine dans le bon sens. On voit tout de suite, quand on explique comme ça, que la première vertu dont on va avoir besoin pour utiliser la vertu de justice, c'est la vertu d'humilité. C'est évident. L'humilité est une vertu fondamentale. C'est la vertu de l'humilité qui va m'aider à reconnaître j'ai détruit une partie de la gloire accidentelle de Dieu. Donc je dois réparer. Alors si on expliquait rapidement ces trois points pourtant, la première chose qu'il faut faire, c'est l'esprit d'aumône. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'aumône? Pourquoi est-ce qu'il y a ces trois points? Aumône, jeûne et prière. Tout simplement parce qu'il y a trois concupiscences. Rappelez-vous, c'est Saint Jean là qui parle. Il y a trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Et donc, il va falloir des vertus spéciales pour lutter contre ces trois choses. Alors, de façon générale, on peut dire que contre la vertu de la concupiscence des yeux, il faut la vertu de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, il faut la vertu de chasteté. Et contre l'orgueil, il faut la vertu d'obéissance. Mais les pères de l'Église vont plus loin que ça. Et explique que pour détruire, et on va utiliser d'abord l'aumône, pour lutter contre, pour rattraper tous les péchés contre le prochain. Péchés contre le prochain, c'est-à-dire les péchés par lesquels j'ai manqué à la justice contre le prochain. Donc l'aumône rattrape les péchés contre le prochain et rattrape tous les péchés qui viennent de la concupiscence des yeux. Qu'est-ce que c'est que la concupiscence des yeux ? Concupiscence des yeux, c'est ce désir que nous avons qui est terrible en nous. Le désir de tout posséder. On veut avoir toujours les choses nouvelles. On voit très bien ça dans les grands magasins. Vous avez ces lumières qui attirent, avec ces lumières qui brillent, et qui ont, avec le panneau nouveau, hop, tout le monde y va parce que c'est nouveau. Ce qu'on appelle la concupiscence des yeux. La concupiscence des yeux doit être impérativement contrôlée par l'esprit de pauvreté. Et donc l'aumône qui fait que je prends du mien pour rendre ce que j'ai volé aux autres et volé à Dieu, bon, me permet, cet esprit de pauvreté, cette aumône, va me permettre de rendre à chacun ce qui lui est dû. Il faut prendre l'aumône au sens large. Une belle expression du Moyen-Âge que vous connaissez sans doute, on parle parfois d'aumône dans un sens complètement différent. Quand vous demandez à quelqu'un, faites-moi l'aumône d'un sourire. Moi j'aime bien cette expression. L'aumône d'un sourire. C'est-à-dire, je donne quelque chose qui me coûte. Dès qu'on parle d'aumône, les gens pensent qu'il faut ouvrir le portefeuille et donner une pièce. Non, ce n'est pas ça l'aumône. C'est bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui coûte plus? De donner un billet de 5 euros à un pauvre ou de faire un grand sourire à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir en peinture? Qu'est-ce qui coûte le plus? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, pour moi, je préfère donner 20 euros à un pauvre que faire un sourire à quelqu'un que j'ai envie d'étrangler. Vous voyez, c'est ça l'aumône. L'aumône, c'est la mortification de la volonté propre et je donne quelque chose qui m'appartient pour rattraper les dégâts que j'ai faits dans mes contacts avec le prochain. Ben pourquoi les pères disent que l'aumône nous est donnée pour attraper tous les péchés contre le prochain? Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le catéchisme, l'Église catholique, quand elle parle de l'aumône, ne donne pas de règles particulières d'aumône. Justement parce que chacun d'appliquer ces choses. La seule aumône dont l'Église parle, Parce que celle-là, elle est d'obligation, ce qu'on appelle le denier du culte. Le denier du culte, c'est-à-dire que notre Seigneur nous dit dans l'Évangile que celui qui travaille à l'autel doit vivre de l'autel. Donc c'est un commandement, non pas de Dieu, mais un commandement de l'Église, qui dit que les catholiques ont le devoir d'aider leurs prêtres pour qu'ils puissent justement vivre de l'autel. Ce qu'on appelle le denier du culte. Mais en dehors du denier du culte, l'Église ne donne aucune règle particulière pour l'aumône. Parce que justement, c'est à chacun d'utiliser l'aumône pour rattraper ce qui a été volé. Donc il faut bien prendre ça au sens large. Et encore une fois, ça coûte beaucoup plus de... Il faut savoir faire son examen de conscience pour se rendre compte, voilà, telle personne, je dois faire un effort de charité, de gentillesse avec cette personne, eh bien je vais faire l'aumône d'un acte de charité à l'égard de cette personne. Le deuxième point, c'est le jeûne. Le jeûne, cette fois-ci, c'est la réparation pour tous les péchés contre nous-mêmes, me disent les pères. Et ça touche à la concupiscence, donc de la chair. L'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair. Par le jeûne, je fais pénitence au niveau physique contre mon propre corps pour rattraper les péchés commis contre le propre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Certes, l'âme est bien plus importante que le corps, mais l'âme ne se promène pas toute seule. L'âme, c'est la forme d'un corps. Et le bon Dieu nous demande de respecter notre corps parce que le corps, justement, est sous l'autorité de l'âme. Encore une fois, avant le péché originel, toutes ces choses-là se passaient très bien. Mais depuis le péché originel, il y a une révolte. Une révolte entre le corps et l'âme. L'âme tire d'un côté, le corps tire de l'autre, et il y a une confrontation entre les deux. Et donc, l'Église nous demande justement de jeûner pour rattraper, en quelque sorte, enlever l'énergie de cet esprit révolutionnaire qui est en chacun d'entre nous. Il y a un petit démon de la révolution en chacun d'entre nous. Rappelez-vous les trois mots du démon concernant la révolution: liberté, égalité, fraternité. Faut pas croire que ça marche que pour les francs-maçons, hein. Ça marche aussi pour chacun d'entre nous. Et nous aussi, constamment, on a cette petite voix qui nous parle et qui nous dit: je suis libre, liberté, égalité, fraternité. Je n'obéirai pas. Non servir. Rappelez-vous celui qui a dit ça pour la première fois. C'est le démon. Je ne servirai pas. Regardez les conséquences. Et Adam et Ève, ils ont répété la même chose. Je ne servirai pas. Vous voyez, donc, il faut réaliser ces choses-là. Et là, encore une fois, quand on regarde un petit peu le catéchisme, on s'aperçoit que l'Église est plus directe dans le jeûne. S'il y a peu de choses sur le monde, il y a par contre beaucoup plus de choses sur le jeûne. Il y a des jours de jeûne. Des jours où l'Église demande le jeûne. Et elle impose le jeûne à toutes les personnes, les catholiques, qui ont entre 21 et 60 ans. Par exemple, les quatre temps. Mercredi, vendredi, samedi, les quatre temps, quatre fois par an, il y a un jour de jeûne. Certaines vigiles, jour de jeûne. Le carême, jour de jeûne. En plus de ça, il y a le jeûne eucharistique qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi un jeûne. L'Église demande de faire un effort de purification physique, parce qu'encore une fois, il y a un contact, il y a un lien entre l'âme et le corps, une purification physique avant de s'approcher de la Sainte Communion. Donc, pour tous les prêtres, le jeûne demandé pour la nourriture solide, 3 heures. 3 heures avant le début de la messe. Un café, par exemple, un thé, 1 heure. L'eau ne rompt pas le jeûne. Pour les fidèles, la règle est un petit peu différente. Il y a aussi ce jeûne eucharistique, mais cette fois-ci, le temps est à décompter à partir de la communion. Donc 3 heures avant la communion sans manger, et 3 heures, 1 heure avant la communion pour les liquides, sauf l'eau qui ne rompt pas le jeûne. Vous voyez, il faut bien comprendre que l'Église, par les pères de l'Église, explique bien que ce jeûne est très très efficace pour lutter contre la concupiscence de la chair. Donc certainement la meilleure façon de lutter contre toutes les tentations d'impureté qui sont partout dans le monde moderne, c'est le jeûne. Souvent je conseille ça au confessionnal. Quelqu'un m'a dit: Monsieur l'abbé, j'ai beaucoup beaucoup de tentations contre l'impureté, qu'est-ce que je dois faire? L'Église répond: jeûnez, commencez par jeûner. C'est très bon pour le corps, mais c'est aussi très bon pour l'âme. Donc après l'aumône, quand des péchés à l'égard qui sont à l'égard du prochain, le jeûne regardant les péchés contre nous-mêmes, il y a les péchés contre Dieu. aumône, jeûne et prière. La prière, c'est évidemment la troisième chose donc, qui va correspondre cette fois-ci à l'esprit d'obéissance. Donc l'aumône correspond à l'esprit de pauvreté, le jeûne à l'esprit de chasteté et la prière à l'esprit d'obéissance. Cette fois-ci, c'est pour attaquer l'orgueil. Donc la prière n'est pas quelque chose de facultatif. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. C'est aussi simple que ça. Saint Alphonse de Liguori qui disait comme ça. La prière est nécessaire au salut. Et il faut apprendre à prier. Et ce qui se passe dans le monde moderne. Les enfants sont devenus incapables, la plupart du temps, ne sont plus éduqués, sont incapables d'utiliser ces tout petits mots qu'on appelle les mots magiques. Vous les connaissez tous. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci, pardon. La prière, c'est quoi? C'est ça. C'est dire au bon Dieu, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon. C'est ça la prière. La prière n'est pas quelque chose de compliqué. Pas quelque chose de compliqué. C'est cette relation qu'on établit avec le bon Dieu pour récupérer cette relation qui a été coupée justement par le péché. Parce que je commets un péché grave avec ce que je fais. Je coupe la relation qui m'unit à Dieu. Et donc, il faut réouvrir en quelque sorte la communication entre Dieu et moi, et je rouvre de nouveau la communication entre Dieu et moi par la prière. Donc, la prière est nécessaire. Vous voyez, comme toutes ces choses sont importantes, c'est des points de catéchisme qui sont peu connus en général. Donc, on a besoin de prier. Attention, il ne faut pas simplement prier parce qu'on est obligé de le faire. Imaginez un époux qui se dit... Oh, la belle fille m'a dit qu'il fallait que je dise à ma femme que je l'aime. Bon, elle m'a dit qu'il faut que je lui dise ça au moins trois fois le matin. Au moins trois fois par jour. Bon, alors je me lève et j'embrasse mon époux et je dis « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Allez, maintenant je suis débarrassé, j'ai pu lui dire toute la journée. Qu'est-ce que c'est que cet amour? Quelqu'un qui, un époux qui aime son épouse, doit être heureux de dire à son épouse qu'il l'aime. Et s'il le dit par simple obligation, je suis obligé de dire à mon épouse que je l'aime, il n'y a plus d'amour entre ces deux-là. L'amour est mort. Pareil que mon Dieu. Pour ça qu'il ne faut pas prendre simplement la prière comme une obligation. J'aime pas du tout les gens qui présentent toujours la prière comme une pénitence. Non. On prie par amour pour le bon Dieu. Et si je ne suis plus capable de dire au bon Dieu que je l'aime, c'est que le bon Dieu n'a plus d'importance pour moi dans ma vie de tous les jours. Donc il faut vraiment... Il faut penser tous les jours à prier parce que c'est tout simplement notre façon de montrer au bon Dieu que nous l'aimons et aussi la façon de rétablir cette gloire accidentelle que j'ai détruite dans le bon Dieu, autant que faire se peut pour moi, par le péché. D'où la nécessité de prier. Tout ça dans ces périodes d'été qui sont des périodes où il y a beaucoup plus de tentations à cause de la chaleur souvent. La chaleur a des conséquences sur le corps. Et donc, il y a plus de tentations en général pendant l'été. Donc là, il faut, je dirais, prier davantage, bien garder sa prière du matin, sa prière du soir, l'offrande de la journée le matin, l'examen de conscience ce soir, le chapelet tous les jours, pour arriver justement à montrer au bon Dieu, « Mon Dieu, je vous aime. » Et si le bon Dieu voit que nous l'aimons, à ce moment-là, il ouvre la porte de sa miséricorde. Il ne faut pas oublier, c'est une chose qu'on oublie beaucoup trop souvent, que de nombreuses grâces que le bon Dieu a prévu de nous donner sont des grâces conditionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce conditionnelle ? C'est-à-dire, c'est une grâce qui est donnée dans la mesure où je la demande. Mon Dieu attend qu'on la demande. Attend qu'on la demande. Eh bien, si on ne demande pas ces grâces, eh bien, on ne les reçoit pas. Parce que le bon Dieu, pour détruire l'orgueil qui est en nous, exige d'abord que l'homme orgueilleux apprenne à se mettre à genoux. Et c'est dans la mesure où l'homme moderne ne sait plus se mettre à genoux, que l'homme moderne est incapable de prier. On le voit très bien dans le monde moderne. Et c'est parce que l'homme moderne est incapable de prier qu'évidemment il perd la foi, parce que sans la prière, on ne peut pas conserver la foi. Prière est nécessaire au salut. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons ces grâces dont nous avons besoin, cet esprit d'aumône, cet esprit de jeûne, cet esprit de prière, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, pour rattraper autant que faire se peut toutes les offenses que j'ai faites contre l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. On ne pense pas à ces choses-là. On ne pense pas qu'à chaque fois que je commets une faute grave, je bafoue l'honneur de Dieu. Imaginez un époux qui, je ne sais pas, un exemple que je peux donner, un époux qui a bu un coup de trop, qui rentre, et qui manque de respect à son épouse parce qu'il a bu un coup de trop. Bon, le lendemain matin, il a dégrisé. Il faut qu'il fasse quelque chose. L'épouse, elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend une excuse. Et l'époux doit embrasser son épouse en disant, voilà, hier j'ai bu un coup de trop, vraiment je te demande pardon, je sais que je t'ai manqué de respect, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et l'époux doit faire quelque chose. Bon, je t'invite au restaurant ce soir pour rattraper mes bêtises. Bon, vous voyez, c'est ça qui est important. C'est pareil avec le bon Dieu. C'est pas dire, oh, je me confesse, c'est fini, c'est terminé. Beaucoup de gens sont comme ça. J'ai commis des péchés, je vais au confessionnal, l'abbé Malafide m'a donné l'absolution, on finit, terminé, hop, on pense à autre chose. Non! Attention! N'oublions pas qu'une des conditions pour que la confession soit bonne, c'est la réparation. Accusation, contrition, réparation, qu'il y a deux sortes de réparation. Pas oublier! Une réparation sacramentelle, qui consiste à accepter la petite pénitence que le prêtre doit vous donner. Mais aussi une réparation extra-sacramentelle, de rattraper mes bêtises en augmentant l'amour du bon Dieu pour rétablir une bonne relation avec le bon Dieu et avec le prochain aussi. Donc si j'ai manqué de respect au prochain, je dois rétablir ce respect. Si j'ai manqué de respect au bon Dieu, je dois rétablir ce respect. Et si j'ai manqué de respect à l'égard de mon propre corps, je dois aussi rétablir cet ordre. La révolution, c'est ça, c'est un désordre. Donc il faut rétablir l'ordre, c'est le but de la vertu de justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc le travail du chrétien, si vous voulez, c'est ça, un travail de réparation. Réparation. Et comment on répare? Ben, on répare en se mettant au pied de la croix. Donc la réparation entraîne la compassion. Compassion, souffrir avec. Je souffre avec notre Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai manqué, j'ai détruit une partie de sa gloire accidentelle. Donc pour rétablir cette gloire, je souffre avec notre Seigneur. C'est la méditation, c'est l'oraison, c'est la vie de prière. Et celle évidemment qui nous donne le meilleur exemple, c'est justement celle qu'on appelle Notre-Dame de Compassion. Pas pour rien que c'est un des beaux titres de Notre-Dame. Notre-Dame de Compassion, c'est elle qui répare. Elle n'a pas besoin de réparer pour elle, puisqu'elle est Immaculée Conception. Notre-Dame n'a jamais même touché, effleuré la gloire de Dieu. Jamais elle a manqué de respect à la gloire de son divin Fils. Mais Notre-Dame sait que nous avons offensé notre Seigneur. Et donc, comme elle est notre mère, du haut du ciel, elle va nous aider justement à faire réparation. Donc, il faut prier la Très Sainte Vierge Marie. On ne peut pas en parler jusqu'à là, je pense. On ne peut pas réparer nos péchés sans passer par la Très Sainte Vierge Marie. Elle est celle que le bon Dieu a choisie pour nous aider à réparer. Oh, la Très Sainte Vierge Marie, c'est là. Prendre le pécheur par la main et l'amener au pied de la croix. Parce qu'on n'a pas envie d'y aller au pied de la croix. On a toujours des excuses pour ne pas y aller. Et la Très Sainte Vierge Marie nous prend par la main comme elle a dû prendre par la main Saint Jean et l'obliger à venir au pied de la croix. Et au pied de la croix, qu'est-ce que va nous dire notre Seigneur? Fils, voici ta mère. Mère, voici votre fils. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses et à les mettre en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.